Bonjour et bienvenue à ma présentation sur la recherche de gènes avec Python. Donc tout d'abord, présentation du projet et des acteurs. Donc c'est un projet qui s'est fait avec le CNRS, Centre national de recherche scientifique, dont les principaux acteurs ont été Éric Evenot et Régine Mariage Sanson, donc deux chercheurs qui sont venus nous trouver. Donc Logilab, on a réalisé une prestation en informatique scientifique. Donc il y avait mon collègue Adrien Dimasio et moi-même. Donc c'était mon premier projet à Logilab. J'ai commencé en novembre. Et donc nous allons voir une présentation de débutants. Donc on va voir donc l'utilisation de Python sur un cas concret et marchand. C'était un projet d'une durée de 20 jours, donc découpé en fait en deux sous-projets de 10 jours. Donc tout d'abord, le plan de la présentation, tout d'abord on va voir la problématique biologique, c'est-à-dire quelles étaient les bases d'informations. Quels étaient les besoins d'utilisation des chercheurs, et ensuite la solution informatique, c'est-à-dire qu'on est passé par trois étapes, les parseurs, le stockage et enfin l'exploitation des résultats. Donc tout d'abord, je vais montrer les bases Unigène et DFCI. Au départ, donc ça part au niveau des... L'information commence au niveau des gènes qui sont identifiés par un code. Donc le gène, c'est ça. En fait, c'est donc une séquence d'ADN pour lesquelles les chercheurs donnent un code. Donc c'est en général avec deux lettres et six chiffres. Donc ce code-là s'appelle le code GenBank. Donc ensuite, on a les gènes classés en groupes. Donc le premier groupe qu'on a, c'est Unigène. Donc c'est un identifiant, HS2. Donc ça réduit déjà la quantité d'informations. On a à peu près 7 millions de gènes. On va avoir que 300 000 groupes à peu près. On a aussi les groupes DFCI, donc l'autre base. Et on peut voir que le classement est différent entre les deux bases. C'est-à-dire que les gènes ne sont pas forcément mis dans les mêmes groupes. Et on peut remarquer que certains gènes n'ont pas de référence vers la base. Donc les chercheurs, forcément, ils vont avoir un besoin de comparaison à faire entre les deux bases. Les deux bases sont établies par d'autres chercheurs. L'information est sous forme de fichiers texte. Donc les deux bases sont disponibles sur Internet et on peut les utiliser. Et donc pour nous, au niveau informatique, on va avoir un problème de stockage et de mise à jour régulière. C'est-à-dire que la base Unigène, elle est mise à jour à peu près tous les mois. Donc il faut qu'on puisse mettre à jour l'information rapidement. Ensuite, les classes d'ontologie. Donc l'ontologie, on pourrait dire que c'est le sens du gène. Donc l'ontologie, en fait, c'est donc un arbre qui est organisé par classe et niveau. Donc par exemple, ici, on a l'ontologie du système anatomique. Donc on a les emplacements anatomiques, et ensuite on a au second niveau par exemple l'abdomen, on va en fait avoir plusieurs sous-classes. Et par exemple pour le système nerveux, on aurait le système nerveux central, puis ensuite le cerveau, etc. En général, on a jusqu'à 7 niveaux dans l'arbre d'ontologie. Donc en fait, le gène va être rattaché à une ou plusieurs classes. Donc c'est ce que j'ai dessiné ici. C'est-à-dire que, par exemple, ce gène-là, il va avoir une relation vers le site anatomique. Un autre gène va se manifester à d'autres endroits de la classe d'ontologie. On peut remarquer aussi toujours que certains gènes n'ont pas de référence vers la classe d'ontologie. On va avoir aussi plusieurs arbres possibles. Donc, ce qui explique pourquoi ce gène-là, par exemple, il n'a pas de référence au début. C'est-à-dire que sur l'arbre des ontologies, les gènes vont s'exprimer différemment. L'information, elle est sous forme de fichiers OWL, donc c'est des fichiers qui ressemblent en fait à de l'XML, et ça s'appelle la base EVOC. Donc là, pareil, c'est des chercheurs qui définissent les classes d'ontologie, et on peut les télécharger sur Internet. Donc pour nous, on va avoir un besoin de stockage. Donc je continue avec le même schéma pour montrer les fréquences de liaison. Donc là, à partir de maintenant, on n'est plus dans les bases d'information, mais on passe dans le besoin d'utilisation et les calculs qu'on va devoir faire pour les chercheurs. Donc qu'est-ce qu'une fréquence de liaison? Alors la fréquence de liaison brute, c'est le nombre de relations vers une classe d'ontologie divisé par le nombre total de relations du groupe. Donc sur le schéma, par exemple, on peut voir que le premier gène, il a en fait une relation de 1 vers le système anatomique. En réalité, il a une fréquence d'ontologie donc qui est découpée sur plusieurs classes d'ontologie. Par exemple, donc celui-là, il aurait dans ce cas que 0,5 vers l'abdomen et 0,5 vers le cerveau. Alors ce qui est important, c'est qu'on travaille en fait au niveau donc des niveaux. En général, on donne une fréquence de liaison brute pour le niveau le plus bas. Donc par exemple, celui-là, comme il n'a pas de référence au niveau 3, on va prendre le système anatomique. Et pareil pour les autres. Donc quand on va calculer les fréquences de liaison, on va partir donc de la classe la plus basse, et ensuite on va remonter en ajoutant en fait les relations au fur et à mesure. J'espère que c'est clair. Donc un autre calcul possible, c'est les fréquences de liaison normalisées. Donc je ne le présente pas, mais c'est un autre calcul qu'on avait besoin de faire. Donc les profils d'expression électronique, c'est donc l'information qui est en gros la plus importante pour les chercheurs. Il va falloir qu'on parcourt tous les niveaux de l'arbre d'ontologie, donc les niveaux de l'arbre qu'on a vu précédemment. On va d'abord devoir retrouver les groupes d'une base. Donc ça c'est facile, c'est l'information qui nous était donnée au départ, donc les groupes univiennes, les groupes DFCI. Et on va devoir ensuite retrouver les gènes. Donc là pareil, les gènes, ils sont directement connectés au groupe. C'est une information qui nous est donnée au départ. On va ensuite trouver les relations du gène vers sa classe d'ontologie, donc on passe par là, on somme ces relations, et donc on va calculer sa fréquence de liaison brute ou normalisée, donc ce qu'on a défini tout à l'heure. Donc le résultat, en fait, c'est ce graphique. Par exemple, là, ici, on a un profil d'expression électronique au niveau 1 pour le système anatomique, et donc on a des fréquences de liaison, ici, pour chaque classe d'ontologie. Donc ensuite, si on descend dans l'arbre, on va avoir donc de plus en plus de classes et donc différentes fréquences de liaison. Donc ce travail est à répéter sur tous les arbres d'ontologie. Là, on l'a fait par exemple pour le système anatomique, ensuite on va le faire pour les pathologies. Les pathologies étant en fait l'arbre qui définit un peu les maladies qu'un gène va exprimer. Et donc pour nous, ici, on va avoir besoin de calculer et de stocker les résultats. Parce que ça prend assez de temps pour calculer tous les profils d'expression électronique et ensuite on doit le restituer rapidement. Donc je récapitule les besoins. Donc le programme doit pouvoir trouver les gènes d'un groupe avec une fréquence de liaison donnée. Donc c'est ici par exemple, on doit retrouver les gènes correspondant au groupe HS2, par exemple pour une hygiène, mais on va mettre une condition sur la classe d'ontologie, c'est-à-dire qu'on va dire je veux tous les gènes qui ont une fréquence de liaison vers l'abdomen au minimum de 0,5. Il faut par exemple retrouver les profils d'expression d'un groupe. On va devoir retrouver les gènes correspondant à une classe d'ontologie. Donc, quels sont par exemple tous les gènes qui concernent le cancer du foie, par exemple. Et ensuite, donc, les chercheurs, ce qui les intéresse, c'est les comparaisons entre les bases unigènes et DFCI. Comme l'information change souvent entre unigènes et DFCI, ils veulent pouvoir avoir des repères. Et donc, ils vont calculer des indices de cohérence entre les deux groupes. Donc pour nous, on va avoir une contrainte de performance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse restituer l'information assez rapidement. Donc je rentre maintenant dans la partie informatique. Donc je vais d'abord montrer les parseurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a récupéré l'information biologique en fait, qui était disponible dans les fichiers texte. Donc je commence par le fichier Unigène. Donc en fait, c'est un fichier texte assez simple où on a donc une entrée correspondant à un champ d'information et la valeur de ce champ. Par exemple, c'est pour le groupe HS2, on a son titre, et ici on voit qu'on retrouve les codes GenBank, le code du gène. Donc je montre le schéma du parseur, assez simple. Tout d'abord, donc je parse un fichier unigène, je mets donc rien dans la variable HS group. Donc je fais une boucle sur les lignes. Si ma référence est quelque chose, je renvoie, pour l'instant on n'a rien. Donc je vais créer au moment où ça démarre, au moment où la ligne démarre avec un identifiant, un nouveau groupe. Donc je n'ai pas présenté cette classe, mais on imagine que c'est la classe qui va définir un groupe HS. Et donc ensuite, à chaque ligne, je découpe la ligne et je vais avoir donc une nouvelle entrée, une valeur et un champ. Et je vais ajouter ce champ en fait à mon HS group. Donc avec ça, je vais récupérer l'identifiant, le titre et les groupes unigènes. Donc au moment de la seconde étape, la référence vers HS group, c'est une référence vers une classe. Et donc là, dans ce cas, je vais renvoyer une référence HS group. Donc à partir de là, la fonction s'arrête, j'utilise un générateur. Je peux la parser, la mettre en base, par exemple. Et puis ensuite, la fonction continue. Donc on travaille en pas à pas. Donc avec Python, on a fait tous les parseurs en moins d'une centaine de lignes. Donc je vais présenter ensuite les deux autres parseurs qu'on a fait. C'est important d'avoir des tests unitaires. Et donc pour ça, j'ai utilisé PyTest de la librairie Logilab Common. Donc les parseurs des groupes DFCI, à ce moment-là, on a l'information dans deux fichiers texte, et non plus un. Donc dans ce cas, on a en fait l'identifiant du groupe qui correspond à des gènes, des identifiants de gènes. On remarque au passage donc, que le premier groupe, qui est sur la ligne 1, va se retrouver sur la ligne 3. Donc on ne peut pas récupérer toutes les informations des gènes en une seule fois. Ce n'est pas la même organisation que pour unigène. Sur le deuxième fichier, on a en fait le groupe et son titre, et derrière donc, la séquence d'ADN, donc, qui nous ne nous intéresse pas. Alors j'ai présenté le parseur du premier fichier. Donc on imagine l'autre qui n'est pas présenté. Donc on parse pour un fichier. Dans ce cas-là, je vais créer un dictionnaire, parce que je ne peux pas, donc, dans ce cas, utiliser un générateur comme tout à l'heure. Donc je parcours toutes les lignes du fichier, je découpe la ligne, je récupère l'identifiant du groupe à cette ligne, donc j'essaie de récupérer une entrée dans le dictionnaire. Forcément, au début, il n'y en a pas, donc je récupère une exception. Je vais créer une référence vers l'objet cluster, THC cluster, donc l'objet qui définit mon groupe THC, et je le stocke dans le dictionnaire. Ensuite, j'ajoute les codes EST, donc bien sûr, j'ajoute les codes EST qui correspondent à un identifiant GenBank. Donc là, le GB, c'est l'identifiant GenBank. Et donc, je continue. Et en fait, pour le groupe donc, qui est ici, à la troisième ligne, dans ce cas, on va trouver une référence dans le dictionnaire. Et donc, dans ce cas-là, on ne la crée pas et on ajoute ces codes EST. Voilà comment on a utilisé Python pour des FCI. Pour EVOC, donc, c'est des fichiers en fait, OWL qui ressemblent à de l'XML. Donc, dans ce cas, j'ai utilisé le parseur C-Elementary. Donc, qui est pas inclus dans Python. C'est Elementary qui est inclus dans Python 2.5, pas dans 2.4. Et là, on utilise un module à part qui est écrit en C, qui va un peu plus vite. Donc tout d'abord, je définis ce qui est donc un nœud OWL, un nœud RDF. Donc j'ai mis des fausses adresses, mais on les a en réalité dans le fichier. Donc là, pareil, on va parser ce fichier. Donc je crée mon arbre des ontologies. Le module C-Elementary va nous renvoyer directement un objet qui nous permet d'itérer sur les classes. Donc à partir du moment où je définis OWL, je peux récupérer les nœuds qui correspondent à une classe. Donc je récupère ce nœud-là. Je vais pouvoir récupérer son identifiant. Là, il n'est pas affiché, mais logiquement, il y a une entrée pour l'identifiant. Il est affiché ici. Je récupère son identifiant RDF, donc c'est celui-là. Je vais chercher s'il a une sous-classe. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'en fait, dans le fichier, tout est organisé de manière hiérarchique. C'est-à-dire que la classe la plus haute, elle est au début du fichier. Donc, c'est important pour l'algorithme qui arrive. C'est-à-dire qu'au début, forcément, la classe, elle n'aura pas de sous-classe. C'est la classe mère. Dans ce cas-là, en général, c'est la classe EV01, c'est-à-dire le système anatomique. Donc au début, il n'a pas de sous-classe. Je vais créer ma classe, ontologie classe, donc pareil, pas présenté, mais on imagine donc que c'est la classe d'ontologie, avec son identifiant, son parent, son titre, et je la mets dans son arbre. Donc au second passage, dans ce cas, je vais pouvoir trouver une sous-classe. Sur ce cas-là, je passe ici, et je vais pouvoir donc récupérer tout d'abord l'identifiant de la sous-classe, c'est-à-dire celui-là, et je vais pouvoir récupérer son parent, puisque je l'ai déjà parsé à l'étape précédente. Donc avec ça, je réussis en fait à créer un arbre des ontologies dans un dictionnaire. Donc maintenant, on passe dans le stockage R4. On a réussi à récupérer toute l'information du départ qui était dans des fichiers différents en Python, avec des objets Python. Et là, c'est le schéma de la base SQL. Donc on ne voit pas très bien les noms, mais on imagine qu'on retrouve en fait la structure du départ, les groupes unigènes, les groupes des FCI, les séquences, les tables de relations, c'est-à-dire une table avec un groupe et un code ACC, un code GenBank. Et ici, c'est la relation vers les classes d'ontologie, qui se fait en fait en deux temps, qui se fait avec tout d'abord un code DBEST, donc c'est un code intermédiaire entre le code GenBank et la classe d'ontologie. Dans cette classe-là, on stocke les titres, et aussi on stocke l'information pour une catégorie d'ontologie donnée, c'est-à-dire le système anatomique, les pathologies, etc. Et ici, on a stocké l'arbre qu'on vient de parser, c'est-à-dire qu'on a mis une classe, un identifiant vers une classe d'ontologie parent avec une classe d'identifiant d'ontologie fille. Donc on a stocké l'arbre en fait dans une table. Et ici, donc, c'est les tables des résultats qui vont contenir les profils d'expression électronique. Donc avec un niveau d'ontologie, un cluster, et puis ensuite les valeurs des relations vers chaque classe d'ontologie pour qu'on puisse calculer les fréquences de liaison. Donc les choix techniques, on a choisi donc de faire le stockage avec le serveur PostgreSQL. Donc c'est un serveur qu'on connaît bien à Logilab. On trouve qu'il est fiable et robuste. On a fait l'interface Python avec le module PsychoPG2. Donc c'est un module qui est léger et rapide, qu'on aime bien. Donc quels sont les résultats atteints à cette étape? On a réussi à faire un stockage rapide en utilisant copie de la base PostgreSQL, c'est-à-dire qu'on a stocké les 300 000 groupes et les 7 millions de gènes en une dizaine de minutes. On écrit en fait tous les groupes dans un fichier texte qu'on charge ensuite directement en base. Donc la base n'a pas besoin de s'arrêter et de faire des vérifications à chaque mise en base d'un groupe ou d'un gène. La recherche des relations est faite par PostgreSQL, c'est-à-dire qu'en fait on va trouver les profils d'anthologie en envoyant une requête SQL. Donc c'est Postgres qui fait le travail. Je vais montrer un exemple après. Et donc c'est là où on a réussi la réalisation d'une interface unifiée. Donc c'est-à-dire que la différence des sources au départ est finalement gommée par la mise en base des résultats. C'est-à-dire qu'on avait l'information sous forme de fichier texte pour les groupes unigènes des FCI, sous forme de fichier OWL pour les anthologies. On les a stockés en base et donc maintenant on peut les récupérer comme des objets Python. Donc un exemple d'utilisation, c'est sûrement en fait l'exemple qui prend le plus de temps dans le programme, parce qu'on doit le répéter 300 000 fois pour chaque groupe en fait. On va devoir trouver son profil d'expression électronique brute au départ. Donc je montre un exemple de la fonction, par exemple pour le groupe HS2, la base unigène, l'ontologie du système anatomique, et ici c'est le curseur vers la base de données qui m'est donnée par PsychoPG2. Donc dans ma fonction, j'ai un dictionnaire dans lequel je vais stocker les requêtes. Donc pour unigène, ça sera pareil pour DFCI. Je vais d'abord commenter la requête. Donc on doit récupérer les relations entre un groupe et les classes d'ontologie. Mais on a tout d'abord donc la clé intermédiaire qui est le code DBEST. Donc je vais sélectionner le code DBEST et l'identifiant OID. Donc je vais sélectionner ça depuis la table des relations du groupe. Et je fais donc une jointure avec la table de relations vers les groupes ACC. Ensuite, je fais une deuxième jointure vers la table qui contient les identifiants. Et je fais cela donc pour un groupe particulier. Donc je stocke cette requête dans un dictionnaire. Ici, je l'exécute pour un cluster donné, donc ici pour HS2. Et lorsque je vais faire cursor.fetchAll, eh bien je vais récupérer en fait soit le code DBEST s'il y est, soit rien. S'il n'y a pas de relation s'il n'y a pas d'entrée en fait dans la classe des ontologies. Et pareil, je vais récupérer un OID ou rien s'il n'y a pas d'entrée dans la classe d'ontologie pour le groupe donné, c'est-à-dire pour le gène donné, le code ACC, c'est-à-dire le code GenBank qui est donné. Donc ensuite, je crée le profil d'expression électronique, donc celui où je somme les relations. Donc c'est pas présenté. On imagine donc ce qu'il fait, il va sommer les relations puis diviser par le nombre total de relations pour un groupe. Donc l'interface au développement. Ici, on a déjà réussi donc à stocker tous les résultats en base. On a construit des objets Python pour abstraire les requêtes SQL. Donc, c'est-à-dire qu'on est juste à demander, ben, donne-moi tous les gènes pour telle catégorie d'ontologie. On n'a plus besoin de taper du SQL. On a des objets Python pour contenir les résultats, tous les profils d'expression électronique, les fréquences de liaison. Pour cela, donc on a fait au départ, à la fin du premier projet de 10 jours, un utilitaire en ligne de commande qui s'appelait GenDB. Donc il était très satisfaisant pour la mise en base, c'est-à-dire qu'on tapait donc en ligne de commande « insère-moi ce fichier unigène dans la base », et donc hop, il mettait toutes les données dans la base. Pareil pour DFCI et les classes d'ontologie. En revanche, c'était limité pour les requêtes possibles, c'est-à-dire que pour récupérer les résultats, il fallait taper en ligne de commande « donne-moi tous les profils d'expression électronique, donne-moi telle liaison, etc. » Donc c'était difficile pour l'exploitation des résultats. On avait des grands fichiers texte et on n'avait pas la possibilité de sélectionner exactement ce qu'on voulait. Donc en conclusion, on devait faire une utilisation qui devait être plus facile pour les chercheurs. Donc pour ça, on a fait une interface web, on a fait une application web qui est gérée par Twisted. Donc c'est un serveur web qui gère pour nous les sessions. Il va nous créer un objet session pour chaque nouvel utilisateur qui se connecte. Et en même temps, il fait aussi le serveur web, donc il nous envoie les requêtes, tout ce qu'il faut. Donc ici, on voit le formulaire que j'ai fait pour remplir les objets requêtes. Donc on retrouve les idées du départ. La base, unigène ou DFCI, le profil d'expression électronique brut ou normalisé. Ici, on sélectionne donc notre requête pour certains groupes seulement. On a fait du JavaScript avec MojiKit et SimpleJSON donc pour naviguer dans l'arbre des ontologies. Donc le JavaScript nous permet de ne pas recharger la page quand on a juste besoin de descendre ou remonter dans l'arbre des ontologies. SimpleJSON nous permet de communiquer entre Python et Java. Et les résultats donc qu'on avait vus au début avec l'histogramme, ça a été créé avec Matplotlib. On peut aussi avoir donc des fichiers texte à télécharger contenant la requête. Voilà. Et le grand intérêt donc pour les chercheurs, c'est les recherches incrémentales. C'est-à-dire qu'au début, il va chercher des gènes pour le système anatomique. Donc il va essayer de retrouver tous les gènes du système anatomique, par exemple pour l'abdomen. Ensuite, il va faire un croisement avec les pathologies. Donc il va dire quels sont tous les gènes connus pour le cancer au niveau de l'abdomen. Et donc il va faire des recoupements et voir si les gènes qu'il a trouvés dans son expérience sont déjà connus en base ou s'il a trouvé un nouveau gène ou un gène qui était inconnu dans telle classe d'anthologie, etc. Donc, conclusion, développement rapide avec Python. Je récapitule les modules utilisés. C'est Elementary pour parser les ontologies. Donc à chaque fois, on gagne du temps. PsychoPG2 pour manipuler le serveur PostgreSQL. Twisted et SimpleJSON pour l'interface web. Donc à chaque fois, on s'appuie sur des modules très bien conçus pour gagner du temps. Matplotlib pour les profils d'expression électronique. Et Logilab Common Epitest pour tester. J'ai aussi utilisé donc bien sûr les modules de la librairie standard, donc OS, système, et puis Login qui m'a bien aidé pour envoyer des messages de débugage quand on était en développement, renvoyer des warnings, voire des erreurs si le calcul ne se passe pas bien. Le projet a été réalisé sous la méthode du test driven development, donc c'est-à-dire qu'on écrit le test avant le code. Ça permet justement de se poser des bonnes questions sur l'interface. Et on a une bonne couverture de tests pour assurer la fiabilité. Donc, conclusion sur l'application. Le fonctionnement de GenDB, c'est tout d'abord un chargement des données biologiques en base SQL. Ensuite, on lance les calculs et on fait les stockages. C'est à cette étape qu'on réalise l'interface unifiée. Donc, maintenant, on peut travailler avec des objets Python. On a gommé les différences des formats des fichiers du départ. L'exploration des résultats donc par un module Python. Donc, si on sait programmer Python, on peut travailler sur la base de données génétiques. Ce n'est pas facile pour les chercheurs, donc on utilise une interface web. Donc, le futur, on a des performances à améliorer sur la base et le serveur. Donc temps de réaction pour retourner des profils d'expression électronique. Sachant que des fois, on doit en retourner 300 000 ou des nombres importants. Il faut faire attention aussi à la mémoire. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs utilisateurs qui font des recherches en même temps avec des grosses requêtes, il faudra qu'on fasse attention à ne pas dépasser la mémoire qui nous est disponible. On va devoir aussi développer de nouvelles possibilités de recherche. Donc au niveau des profils d'expression électronique, dans les formulaires qu'on a vus, ça restait limité. Ils veulent développer des nouvelles fonctionnalités. Il n'y a pas encore la possibilité de récupérer les indices de cohérence, donc ce qui permet de comparer les bases unigènes et DFCI. Les indices de cohérence sont calculés, mais on ne peut pas les demander depuis l'interface web. Et pour un futur un peu plus lointain, donc on devrait ajouter la possibilité de statistiques, et voir donc avoir des statistiques sur les profils d'expression électronique, ou bien les groupes ou les gènes. Voilà. Merci.
Question toute simple, j'ai peut-être raté un truc. C'est bien un logiciel libre ?
Ça devrait être un logiciel libre. En fait, les chercheurs Eric Evenot et donc Régine Mariage-Sanson, qui sont les propriétaires du code, voudraient le publier donc sous GPL.
D'accord. Et à ce moment-là, les questions sont un peu liées. Est-ce que ce serait possible de déployer facilement ce genre de logiciel ailleurs ? Parce que je pense que toutes les facs de biologie, de pharmacie ou n'importe quoi sont extrêmement intéressées par ce genre de logiciel.
C'est justement leur but, en fait. Justement de créer une communauté autour de cette idée d'analyser les bases unigènes et DFCI.
Et une question intéressée à court terme, est-ce que c'est utilisable à distance ?
Donc là, on voit le développement, c'est pas encore tout à fait au point l'interface web, il y a encore des plantages. Normalement, je dois faire encore un projet de 10 jours, où là, après, on devrait finaliser le développement et ils le distribueront sûrement, donc... en libre, et il faudra aussi faire tout le travail au CNRS pour que ça soit accessible depuis l'extérieur. D'accord. Donc là, ça marche encore pas très bien, en fait.
Merci.
Oui, donc bonjour. Moi, j'ai une petite question. Vous avez parlé, effectivement, de l'émancipation entre les requêtes SQL et puis le langage Python. Donc j'ai entendu parler, je crois, de SQL Alchemy ou Alchemist. Je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion de le rencontrer, de vous poser la question. L'idée étant effectivement d'avoir un framework qui permet justement de totalement dissocier la partie SQL du parti langage. Voilà la question, c'est est-ce que vous en avez entendu parler? Si oui.
Ouais, j'ai entendu parler de SQL Alchemy, SQL Object aussi, je crois, pour faire des requêtes. En fait, on ne l'a pas utilisé parce qu'on devait vraiment avoir le contrôle complet sur les requêtes SQL, sur les performances. En fait, c'est surtout une contrainte de performance qui nous empêche de faire ça. Et la base n'étant pas encore tout à fait au point, justement, c'est ce qu'on doit travailler, les performances sur la base. C'est qu'on doit stocker trop d'informations, à mon avis, en base. Il faudrait peut-être découper. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le contrôle, dans ce cas-là, sur les requêtes.
Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi ne pas avoir plutôt converti les fichiers texte directement en RDF et après utiliser les ontologies pour faire des requêtes dessus?
Les fichiers texte.
À partir de Sparkle.
Parce qu'on préférait en fait avoir directement l'information en base. C'est-à-dire à partir du moment où je parsais, je mettais l'information directement en base. Enfin, je sais pas si j'ai.
D'accord. Oui, non, mais c'était. Les triple RDF auraient pu être mis dans une base aussi derrière.
Les fichiers?
Les triple RDF, une fois qu'ils ont été générés à partir des fichiers texte, ils auraient pu être mis dans un triple store et après avoir fait des requêtes dessus. Je pense que c'est plutôt une contrainte de performance. Mais...
Ça, je connais pas. On a mis l'information en base pour récupérer rapidement. Je sais pas.
Ok.
Non, désolé si tu.
Merci, c'est pas grave.
Pardon.
Oui, donc en fait, le problème avec le RDF, c'est que là, on parle quand même de bases qui contiennent 7 millions de gènes. C'est commence à faire un petit peu des données. Donc, on voulait vraiment avoir un accès très rapide. Et les bases de données relationnelles, en particulier Postgres, ça fait longtemps qu'elles existent. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui travaillent dessus et qui font que, en fait, c'est pas si long de faire des grosses recherches à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi une base de données relationnelle, parce qu'on sait que c'est quelque chose de robuste et qui est très rapide pour ce problème-là, pour lequel on avait vraiment de gros volumes de données.
Ok, merci.